Ève, peut-être qu'on peut commencer à faire circuler les textes parce que nous allons évidemment les laisser résonner, les lire ensemble. Voilà, je suis effectivement bibliste. Je suis en mission dans ma communauté auprès des jeunes et je suis plus familière du Premier Testament, mais pas très habituée, je dois dire, à l'exégèse féministe puisque c'était la question de départ. Voilà, une lecture féministe de Genèse. Je suis une femme qui lit la Bible et il me semble que le texte de Genèse est très féministe tout seul. C'est mon hypothèse de départ. J'espère que lorsque nous aurons regardé de près, vous serez de cet avis. Essayez de comprendre ce que le texte dit, respectez ce qu'il ne dit pas, sans chercher à combler ses silences. Voilà, nous allons revenir au texte biblique. Et ce faisant, je m'inscris dans une forme, merci, d'exégèse féministe qui apporte le fait de déceler et de corriger certaines interprétations courantes qui étaient tendancieuses et visaient à justifier la domination de l'homme sur la femme. Ce texte est de l'ancien pape Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, responsable du préfet pour la doctrine de la foi, et à ce titre président de la commission biblique pontificale qui a édité en 1993 un document qui s'appelle L'interprétation de la Bible dans l'Église, qui passe en revue, nous allons voir un tout petit peu tout à l'heure quels outils il nous propose, qui passe en revue différentes manière de lire la Bible et qui, parmi celles-ci, nomme et étudie l'exégèse féministe en lui trouvant, c'est Rome qui parle, c'est intéressant de voir que Rome dit ça, voilà, en lui trouvant, entre autres, l'intérêt très puissant de repérer des interprétations tendancieuses. C'est moi qui ai souligné le texte interprétation. Parce qu'il n'y a pas de doute que ces premiers chapitres de la Genèse ont été lus pendant des siècles d'une manière fort peu louangeuse pour les femmes. Voilà, lire un texte biblique pour vous dire un petit peu ma posture quand j'aborde ce texte, c'est nouer une parole humaine, complètement humaine, beaucoup trop humaine dans certains chapitres, et une parole que de nombreuses personnes, et peut-être beaucoup parmi vous ce soir, considèrent comme une parole de révélation divine. Et donc, comment on fait pour qu'à travers des mots humains et donc forcément imparfaits, on puisse avoir accès à une parole qui nous dit quelque chose de fondamentalement vrai? Il faut apprendre à lire le texte biblique. Il faut s'équiper un tout petit peu pour pénétrer dans la profondeur d'un texte, ce que nous allons lire ce soir, un minimum de 1500 ans en arrière, peut-être plus. Né dans un Proche-Orient qui, à part les mouvements de population et les guerres, n'avait absolument rien à voir avec celui que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, on a quelques outils qui sont justement présentés dans ce document de la Commission biblique pontificale, qui distinguent des méthodes qui sont des mises en œuvre de techniques littéraires bien éprouvées et des approches qui sont plutôt des regards, des points de vue, une manière d'aborder le texte tout en utilisant les dites méthodes. La plus connue, c'est la méthode historico-critique. Elle consiste à justement prendre en considération la profondeur, l'ancienneté de ce texte, le milieu dans lequel il a été écrit. Et là, nous allons être, je vous le disais à l'instant, vers le 6e siècle avant Jésus-Christ pour le premier chapitre et pour les second et troisième chapitres qui tiennent ensemble la fameuse histoire d'Adam et Ève. Nous allons être, eh ben, on ne sait pas, la méthode historico-critique sèche, après avoir été péremptoire pour dire que c'était plus ancien, parce que c'est plus archaïque, mais un bon auteur sait fabriquer de l'ancien, et donc on ne sait plus si le deuxième récit de la création est antérieur ou postérieur. Peu nous importe à vrai dire. Mais ce qui sera important, ce sera quand même de pouvoir situer cette origine au VIe siècle en Babylonie. On y reviendra tout à l'heure. Évidemment, comme tout texte, la Bible se prête à tous les outils d'analyse littéraire dont nous disposons. Et pour ce soir, on utilisera pas mal l'analyse narrative. C'est un récit. Eh bien, lisons, laissons-nous emmener comme lecteur par le suspense, par l'intrigue de ce récit. Et puis, il y a aussi des approches qui sont basées sur les différentes traditions de lecture. L'approche canonique consiste à considérer que la Bible, ce n'est pas un texte. Et encore là, j'ai que l'Ancien Testament. C'est un ensemble de livres qui a été rangé. C'est une bibliothèque et que la manière dont tous ces ouvrages sont organisés, c'est ça qui constitue le canon des Écritures. Canon, ça veut dire règle, ici, organisation, a une grande importance. On ne l'utilisera pas beaucoup, tout petit peu. On ne peut jamais lire un texte biblique en se contentant du texte qu'on a sous les yeux. Il a des échos ailleurs et il faut pouvoir faire résonner un peu ces échos. La tradition juive, alors là, on s'en servira pas mal. J'ai beaucoup retravaillé la tradition juive. Je trouve que c'est dommage de se priver de cette tradition de lecture très inventive, très imaginative et qui colle à l'hébreu. Et puis, alors, il y a aussi l'approche par l'effet, l'histoire des effets du texte. Là, on y aurait passé une semaine, il aurait fallu trouver quelqu'un d'autre. Comment ce texte a-t-il été lu au fil des siècles ? Je vous avoue que quand j'ai eu fini mon travail pour vous ce soir, je me suis dit, mais et d'où ça sort tout ce qu'on a fait dire à ce texte ? On en parlera peut-être à la fin. Voilà, l'histoire de ce texte. Et puis, l'histoire de la manière dont on l'a lu. Et puis, parmi les différentes approches, qui ne sont pas des outils d'analyse textuelle, mais qui sont des points de vue extrêmement intéressants, la Commission biblique pontificale cite comme fort intéressante l'approche sociologique, l'approche psychanalytique et des approches contextuelles, l'approche libérationniste, l'Amérique du Sud, la théologie de la libération, l'approche féministe, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, qui relève de la même logique en fait que la théologie de la libération, c'est-à-dire considérer que oui ou non, le texte biblique est un texte qui amène à plus de liberté, est un texte pour faire vivre. Donc à partir de là, comment on lit ce texte ? On pourrait, c'est moi qui ai mis les trois petits points, parce que la liste de la Commission biblique pontificale s'arrête là, mais elle a déjà plus de 30 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il rajouterait l'approche de l'éco-poétique et l'approche de l'écologie. Il y a toute une école américaine principalement, de lecture de la Bible pour regarder la place de la terre et des éléments de la nature. Voilà, on a bossé là-dessus il y a quelques années. C'est très intéressant et c'est toujours la même logique. Voilà. Ce texte est là pour nous faire vivre. Alors, travaillons-le. Le lire, c'est toujours une aventure, une vraie aventure. C'est Paul Ricoeur qui a beaucoup réfléchi et théorisé l'acte de lecture et qui a cette belle formule, c'est le lecteur qui achève l'œuvre. Voilà. Pour ceux qui sont coutumiers de Ricoeur, vous connaissez un peu ça, son mouvement, voilà. Le monde du texte, le monde de l'auteur et puis le mien. Voilà. Et cette rencontre qui se passe. Et cette fécondation de mon monde par le monde du texte à travers le monde de l'auteur. Et donc, c'est un peu mon souhait pour ce soir. Je baigne dans ce texte depuis une dizaine de jours. J'ai eu le bonheur de pouvoir partir 4-5 jours dans un monastère et de ne faire que ça. Et voilà, qu'il se passe quelque chose ce soir entre vous et ce texte. Alors, eh ben on va y aller. Tout le monde a vu arriver un texte. Je vous propose de le laisser résonner entre nous. On va commencer par le premier chapitre. J'ai repris les titres d'un ouvrage que je vous recommande si vous avez envie de poursuivre Un monde selon Dieu, l'ouvrage de André Wénin, d'Adam à Abraham ou les errances de l'humain. Ça dit tout sur d'Adam à Abraham, c'est les 11 premiers chapitres de la Genèse. On est Abraham, ça commence au chapitre 12. Donc, moi je vais me taire, ça va me reposer. Peut-être qu'on peut lire, je fais ça souvent avec les étudiants, on commence par un bout, voilà, et puis vous vous arrêtez quand vous voulez, vous passez au suivant, mais alors, et puis vous vous arrêtez quand vous voulez, vous passez au suivant, et on part comme ça, et puis si vous n'avez pas envie de lire, vous passez au suivant directement. Et puis, peut-être, si ça ne vous ennuie pas trop, vu qu'il y a des gens qui sont un peu loin là-bas, de vous lever et de lire à haute et intelligible voix. Une toute petite indication, ce texte est un texte que j'ai choisi, c'est la traduction d'André Wénin, je l'ai choisi parce que j'espère qu'elle va nous déplacer un peu, nous renouveler un peu. Il y a des mots hébreux qui ne sont pas traduits. Donc, Dieu, en hébreu, ça se dit Elohim. Bon, ben voilà, Elohim, on apprend vite. Et puis voilà, tu t'arrêtes. On s'arrêtera au premier tiers de la deuxième page. On ne lit que le chapitre 1 pour le moment. Au premier tiers, on s'arrêtera là. Voilà, je vous ferai signe de cas échéant. Bon, eh bien, écoutez... Écoutons ce texte.
Quand Elohim commença à créer les cieux et la terre, or la terre était tohu et bohu, et ténèbres sur la face d'un abysse, et vent d'Elohim remuant sur la face des eaux, et Elohim dit que soit lumière, et fut lumière.
Et Elohim vit la lumière, que c'est bien. Et Elohim sépara la lumière et la ténèbre. Et Elohim appela la ténèbre. Et Elohim appela la lumière jour, et la ténèbre, il l'appela nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, jour 1.
Et Elohim dit, que soit une voûte au milieu des eaux, et qu'elle sépare les eaux des eaux. Et Elohim fit la voûte, et il sépara les eaux qui sont en dessous de la voûte des eaux, qui sont au-dessus de la voûte. Et ce fut ainsi. Et Elohim appela la voûte cieux. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Elohim dit que s'assemblent les eaux d'en dessous des cieux en un lieu un, et que soit vue la sèche. Et ce fut ainsi. Elohim appela la sèche terre. Le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Et Elohim vit.
Et Elohim dit, que la terre fasse pousser une pousse, une herbe semence, un arbre à fruits faisant fruit selon son espèce, dont la semence est en lui et sur la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit sortir une pousse, une herbe semence selon son espèce, et un arbre faisant fruit dont la semence est en lui. Selon son espèce. Et Elohim vit que c'est bien. Et il eut un soir et il eut un matin. Troisième jour.
Et Elohim dit que soient des luminaires en la voûte des cieux pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils soient pour signes et pour des convocations et pour des jours et des années. Et qu'il soit pour luminaire en la voûte des cieux, pour illuminer sur la terre. Et ce fut ainsi. Et Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner du jour, et le petit luminaire pour gouverner de la nuit, et les étoiles. Et Elohim les donna en voûte des cieux pour illuminer sur la terre, et pour gouverner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et la ténèbre. Et Elohim vit. Que c'est bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, quatrième jour.
Et Elohim dit, que grouillent les eaux, grouillement d'êtres vivants, et le volatile qu'ils volent sur la terre, sur la face de la voûte des cieux. Elohim créa les grands monstres marins et tout l'être vivant rampant dont grouillent les eaux selon leur espèce et tout volatile à elle selon son espèce. Et Elohim vit que c'est bien. Et Elohim les bénit en disant « Fructifiez et multipliez et emplissez les eaux dans les mers et que le volatile multiplie dans la terre. » Et il eut un soir et il eut un matin. Cinquième jour.
Et Elohim dit, que la terre fasse sortir un être vivant selon son espèce, bétail et rampant vivant de terre selon son espèce. Et ce fut ainsi. Et Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, et le bétail selon son espèce, et tout rampant de l'humus selon son espèce. Et Elohim vit que c'est bien.
Et Elohim dit, faisons humain en notre image, comme notre ressemblance, qu'il maîtrise le poisson de la mer et le volatile des cieux, et le bétail et toute la terre, et tout rampant, rampant sur la terre. Et Elohim créa l'humain en son image, en image d'Elohim, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit, fructifiez et multipliez, et emplissez la terre, et soumettez-la, et maîtrisez le poisson de la mer, et le volatile des cieux, et tout vivant rampant sur la terre.
Et Elohim dit, voici, je donnerai pour vous toute herbe selon semence qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en lui un fruit d'arbre semence, pour vous, ce sera pour manger, et pour tout vivant de la terre, et pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant sur la terre, une suie est un être vivant, toute verdure d'herbe pour manger. Et ce fut ainsi. Et Elohim vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, très bien, et il eut un soir et il eut un matin, le sixième jour.
Et furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Elohim acheva pendant le septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa pendant le septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le septième jour et il le sanctifia, car pendant celui-ci, il se reposa de toute son œuvre qu'Elohim avait créée pour faire. Vous voyez, je me suis trompée dans l'indication de la coupure. Alors, avant d'aller lire la création de l'humain, il faut planter un peu le décor. C'est un texte avec un rythme. Ça va me permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Vous avez entendu les sept jours, hein, un chiffre très fréquent dans l'Antiquité à cause des mois lunaires. 4 fois 7, 28, c'est facile à compter. Bon. À noter que l'homme, je dis ce mot, c'est l'humain, hein, c'est pas encore le monsieur, l'homme, le masculin, c'est l'humain, n'est pas au centre de la création. Si vous faites la création en 7 jours, le centre de 7, c'est le quatrième jour. Qu'est-ce que Dieu crée le quatrième jour ? Les luminaires, les étoiles, le cosmos, autrement dit le calendrier, le temps, et puis les rencontres, autrement dit les cérémonies religieuses. Ce texte est issu de la tradition sacerdotale. La seule chose qui reste à Israël, parti en exil après la ruine de Jérusalem en 587, ce sont ces prêtres et cette catéchèse qu'ils inventent pour que les petits d'Hébreux qui grandissent en milieu babylonien n'oublient pas la tradition de leur père. Donc, le centre, c'est le quatrième jour, et ce jour-là, c'est la création du temps et du calendrier liturgique, si on ose dire. Donc, l'homme n'est pas au centre. Vous aurez remarqué qu'il n'est pas non plus l'aboutissement de la création. Comme dit Catherine Chalier, un excellent bouquin que je vous ai mis dans la bibliographie aussi, il nous créa à son image, la dame, Adam, n'a pas le privilège d'un jour pour lui seul. Voilà. Il est créé le sixième jour, à la suite de toutes les âmes vivantes de la terre ferme, et il partage avec elle une bénédiction qui commence, il y a 5 vers dans la bénédiction de l'humain, mais il y en a 3 qui sont communes aux animaux, « croissez, multipliez, remplissez. Voilà. La reproduction n'est pas réservée à l'espèce humaine. Il suffit de regarder la création pour le voir. L'aboutissement de la création, c'est le septième jour. Et le septième jour est marqué par le fait que Dieu s'arrête. Alors Paul Beauchamp, un immense exégète français qui est mort il n'y a pas très longtemps, insistait beaucoup là-dessus. Ce n'est pas le repos, Dieu n'est pas fatigué. Voilà. Mais Dieu est suffisamment puissant pour pouvoir arrêter son œuvre. Il n'est pas l'esclave de sa puissance de création. Et il s'arrête. C'est une chose à laquelle je pense très souvent pour moi-même. Donc, sept jours, l'homme, deuxième mi-temps du sixième jour. Et puis un refrain. Voilà. C'est bon, c'est bien. Tov, en hébreu. Voilà. Ki tov, c'est une exclamation. Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est bon? Alors ça, c'est la révolution au Proche-Orient ancien à cette époque-là dans un récit de création. Et pour comprendre ça, il faut réfléchir un tout petit peu aux matériaux que nous avons lorsque nous avons un récit qui nous raconte la création du monde. Il n'y a qu'un seul matériau pour raconter ces choses que personne n'a vues et qui sont les récits des origines. C'est le matériau mythique. C'est de faire usage du vocabulaire de la mythologie. Et la Bible utilise aussi ce vocabulaire. Si on avait le temps, mais il y en aurait encore pour deux jours, on comparerait, parce que ça a été fait avec énormément de fruits, quels sont les éléments que l'auteur biblique reprend tout autour de lui, parce que c'est ce qu'on raconte et que les petits enfants d'Hébreux entendent comme les autres, mais simplement, il reprend ces éléments et il les subvertit pour leur faire dire, mais complètement autre chose. C'est encore plus fort du point de vue pédagogique. Et notamment, tous les éléments mythologiques autour, aussi bien dans le Proche-Orient ancien qu'en Égypte, je connais moins l'Égypte, mais en tout cas le Proche-Orient ancien n'a pas de doute, sont d'une grande noirceur sur l'origine de la création et l'origine de l'humanité. C'est assez logique si on réfléchit deux minutes. Le texte a beau commencer par « au commencement », voilà. En réalité, ce n'est pas le commencement qui nous est décrit. Un commencement, c'est un début. On discute où est-ce qu'on va mettre le commencement, je ne sais pas moi, de la Révolution française ou du Moyen-Âge. Bon, ça se discute, mais il y a un début. Ça, ce n'est pas un récit de commencement, c'est un récit d'origine. Et l'origine, à la différence du commencement, c'est ce qui sous-tend, ce qui soutient, c'est le fondement qui fait que les choses continuent d'être ainsi. Et comment on écrit un récit d'origine? Eh bien, on a bien réfléchi, on est un sage, si on est auteur de la Bible, on est aussi un priant, on a une relation avec l'Esprit Saint qui inspire ces textes, mais on fait comme tout le monde, on regarde et on se questionne. Comment tout cela est-il arrivé là, par déduction? Et comme la violence, la souffrance, la maladie et tout ce que vous voulez est omniprésent depuis que le monde est monde, bien, tout naturellement, les récits d'origine, toutes les mythologies, la mettent, la violence et la souffrance, à l'origine. Alors ça donne par exemple des hommes qui sont créés parce que les dieux sont fatigués de travailler, pour avoir à manger, il leur faut une petite armée d'esclaves qui va leur apporter des offrandes, bon, voilà, etc., le genre de choses comme ça. Une vision très noire. Ici, rien de cela. La Bible s'ouvre sur un univers qui va durer deux chapitres, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, voilà, d'une harmonie, d'une beauté, d'une bonté, d'une absence de violence tout à fait unique. Vous avez entendu, il sépara, voilà. Il sépara la lumière et les ténèbres, il sépara, alors ça c'est très mignon ça, la voûte, elle est au milieu de l'eau. Voilà. Et puis au-dessus, c'est le ciel, et en dessous, ben, ça fait de l'espace. Il va y avoir la terre, on va encore espacer les eaux pour que la terre, la sèche, surgisse. Et puis, ben, il y a des petits trous dans la voûte à cause de la pluie. Voilà. Cosmologie antique. Hein. Donc, ça, c'est pour remporter la victoire sur le tout début du texte, où vous avez « la terre était tohu et bohu ». Voilà. Souvent, on traduit « déserte et vide ». Mais le tohu-bohu, c'est passé en français, tohu-bohu, ben c'est de l'hébreu, voilà. Et ça désigne cette espèce de chaos originel qui est tout sauf désert et vide, qui a au contraire une tendance à proliférer, à envahir, et qu'il faut tenir en respect. Et c'était la thèse de Paul Beauchamp, création et séparation. Voilà. Dieu crée en distinguant, en séparant, en posant des limites. Et ça va être quelque chose de tout à fait clé dans la suite du récit. Et puis, c'est la même chose avec les espèces vivantes. Vous avez entendu, selon son espèce, selon son espèce, selon son espèce, selon son espèce. Bon, alors une fois qu'on a très brièvement planté le décor, la boîte à côté, j'entends encore Paul Beauchamp nous expliquer ça. Voilà la création. Dieu met de l'ordre, il écrit « haut »,« bas », et il rajoute « fragile ». Effectivement, c'est fragile. Alors maintenant, on est plus en mesure de comprendre l'originalité de la création de l'homme, de l'humain, devrais-je plutôt dire, de l'humanité, au sein de ce chapitre absolument grandiose. Il faut regarder le texte de près. Donc, voilà, j'espère que tout le monde voit. Je vous ai mis la traduction avec un tout petit peu d'hébreu pour faire savant et parce que c'est quand même un peu utile. Alors, d'abord, on a, quand on passe à la création de l'humanité, on a une rupture complète avec les histoires de selon son espèce, selon son espèce. Bon, là, l'homme est créé unique, voilà, et c'est un des traits par lesquels il ressemble à Dieu, qui est un et seul jusque-là, dans ce premier chapitre. Alors, et Elohim dit, faisons Adam, l'humain, en notre image. Alors, là, il y a un truc mais incroyable que j'ai découvert en travaillant, moi-même, j'ai fait mon mémoire sur l'idolâtrie, et figurez-vous que Tselem, l'image, c'est du vocabulaire de description des idoles. Il y a une dizaine de mots en hébreu pour désigner les idoles. Tselem est un de ceux-là. Et je trouve que ça, c'est un coup fumant d'avoir renversé. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une idole? C'est l'homme qui fabrique quelque chose dont il dit, ben voilà mon Dieu. Et là, le texte inverse, et c'est Dieu qui fabrique un humain, be tselem. Le be, c'est une conjonction en hébreu qui donne une conjonction particulièrement forte et intime entre les deux parties. Donc, petit coup de patte et humour biblique. La Bible sait rire aussi quelquefois. Donc, en notre image, je vous avoue qu'il faut le décodeur, on est d'accord. Mais ce tselem, je vous jure que c'est marrant. Hein. Bon. Et puis, comme notre ressemblance, qui demout. Bon, alors ça, c'est un mot qu'on trouve très peu, c'est même pas de l'hébreu d'ailleurs, demout. C'est de l'araméen, c'est la signature d'un texte beaucoup plus tardif. Et qu'il domine sur les poissons, on va y revenir, donc ça c'est le projet. Et après l'exécution, Dieu créa l'Adam en son image, en l'image d'Elohim il le créa. Alors, mâle et femelle traduit Catherine Wenas. Là j'ai pris la traduction de Catherine Chalier parce qu'il faut croiser les traductions parce que, à moins de lire l'hébreu suffisamment bien, ce qui n'est pas mon cas, c'est comme ça qu'on cerne un peu mieux le texte. Et elle traduit masculin et féminin. J'aime bien parce que Zakar et Nekeva, ben, si vous faites de l'hébreu, ben, c'est comme ça que dans la grammaire, on vous désigne le masculin et le féminin, tout simplement. Donc, cette image de Dieu, on peut disserter dans tous les sens en quoi l'homme, l'humain, est-il à l'image de Dieu. On y reviendra si vous voulez, mais comme le temps passe et que je veux qu'on discute, j'avance. Le texte hébraïque le fait à sa manière, c'est-à-dire pas avec un discours philosophique, il le fait avec des choses extrêmement concrètes, et donc il vous explique que voilà, masculin et féminin, c'est-à-dire dualité, c'est-à-dire relation, même si le « tu » n'existe pas encore dans ce chapitre. Ça va être l'enjeu du chapitre 2, la relation. Donc, on a une création, ou une création qui est ouverte, qui a quelque chose de programmatique, et c'est comme ça que la tradition juive interprète le pluriel « faisons Adam en notre image ». Ce n'est pas un pluriel de majesté, ça n'existe pas en hébreu. C'est soit Dieu qui délibère avec lui-même, soit Dieu qui délibère avec les anges, parce que les anges, ils sont déjà là, et l'homme va avoir une telle importance, je résume la tradition juive, qu'il ne faudrait quand même pas qu'il soit jaloux de la création de l'homme. Bon, ce qui arrivera d'ailleurs, bon, j'en passe. Et donc, il faut les mettre dans le coup, et donc Dieu en parle avec les anges. Bon. Mais aussi, ça c'est la tradition juive, vous voyez, on croise, il n'y a aucune interprétation exclusive des autres. Mais aussi, Dieu parle à cet humain qu'il est en train de créer, et qu'il ne peut pas créer seul, parce que c'est l'humain qui sera aussi participant de sa propre création, et c'est pour ça que le mot « ressemblance » n'est pas repris dans la mise en œuvre. Dieu, il crée l'image, il crée la vision, il crée la visée, mais la ressemblance, ça sera à l'homme de pouvoir l'atteindre ou pas. Et c'est aussi pour cette raison que, si vous regardez le texte, c'est assez amusant. Le sixième jour, parce que quand même Dieu est content de ce qu'il fait très régulièrement, il s'exclame que c'est bien. Alors le sixième jour, ça commence après le cinquième, comme dirait l'autre. Donc on est au verset 24, en bas de la première colonne de ce que nous avons lu. Et si vous cherchez la bénédiction, vous voyez qu'elle vient dès le verset 25, « Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et tout rampant de l'humus selon son espèce. » Repérons qu'ils sont déjà là, les rampants, parce que le serpent, ça va être un rampant. « Et Elohim vit que c'est bien. » Bénédiction du sixième jour. Et puis après, on remet ça avec la création de l'homme. Autrement dit, et la tradition juive est merveilleuse de ce côté-là, elle pointe que ben, l'homme, Dieu ne peut pas déclarer tout seul que c'est bien la création de l'homme. Parce que ça va dépendre comment l'homme grandit, comment ça pousse, cette plante-là, si j'ose dire. Donc, vous voyez le côté programmatique du récit. C'est important de voir ça. Si je résume un peu notre lecture de ce premier chapitre, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la Bible s'ouvre sur une vision de la création profondément optimiste, harmonieuse et bonne. Que c'est un récit tout à fait original par rapport au pessimisme des mythes environnants. Et que un tel récit n'est possible que parce que les auteurs eux-mêmes ont fait, dans leur existence, l'expérience d'un Dieu fondamentalement bon. Et si vous réfléchissez que ceux qui écrivent ça, c'est des gens qui ont connu la destruction d'absolument tout ce qui leur était cher, jusque y compris le temple de Jérusalem, et qui sont partis en exil, eh ben, vous réalisez à quel point dire que le monde est bon, ce n'est pas un discours de naïf. C'est possible seulement à travers l'expérience de salut que le peuple a fait en sortant d'Égypte. Donc, première chose, une création bonne et harmonieuse, et par derrière, pour écrire ça, une expérience de la bonté de Dieu, qui est sauveur avant d'être créateur, si j'ose dire. Deuxièmement, l'humanité ne tient pas une place unique, mais cette place n'est pas centrale dans le récit. Ça, c'est tout à fait clair. N'en déplaise à l'anthropocentrisme dont Linois est en 1966, dans un article extrêmement célèbre, a accusé la Bible et toute la tradition chrétienne d'être la source de la crise écologique actuelle. Ben, c'est simplement une, c'est un mauvais procès fait au texte. Qu'on l'ait interprété dans ce sens, dominez la terre et soumettez-la, je suis d'accord, mais pas dans le domaine de... mais ce n'est pas le texte, c'est l'interprétation du texte. Je vais y revenir. Si je ne suis pas en train... non, je ne vais pas y revenir parce que j'ai oublié quelque chose de très important. Excusez-moi, à force de décoller de mon papier en me disant qu'il faut que j'avance. En quoi l'homme est-il à l'image de Dieu ? Il y a deux choses. Donc masculin et féminin, donc relation. Mais vous voyez que juste avant, dès le projet de Dieu, il y a cette domination, justement. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Essayez de dominer les oiseaux du ciel, vous m'en direz des nouvelles. Bon, donc, ce qu'on a là, c'est effectivement une humanité établie maîtresse et souveraine de la création. Mais encore faut-il savoir de quel genre de domination il va s'agir. Et là, le texte a un petit indice, et qui, si on lit la suite, va se confirmer. Il parle, c'est le régime alimentaire, figurez-vous. Dieu donne à tout le monde, je suis au verset 29, « J'ai donné pour vous toute herbe, semence, qui est sur la face de la terre, tout arbre, etc. » Donc, en Genèse 1, aucun sang animal n'est versé. Tout le monde broute, même le lion, ce qui évidemment facilite la relation entre l'humanité et l'espèce animale. Donc, ce symbole de l'absence de violence nous indique une manière de dominer, empreinte d'une douceur souveraine dont nous n'avons absolument aucune idée, à vrai dire. Au point que, quand on veut parler de ça, comme on ne sait pas comment dire, parce que si on dit douceur, ça fait mou, alors on dit non-violence, mais vous voyez bien qu'on utilise le mot de violence pour désigner cette réalité dont nous ne pouvons pas savoir ce que c'est. Donc l'image de Dieu, c'est ça. Voilà. À noter aussi que Adam, se traduit humain, voilà, est un générique et n'est pas un nom propre. Ça, ça va être très très important pour la suite. Et que cette humanité, elle est masculin et féminin, appelée à se reproduire, c'est-à-dire qu'il y a bien deux êtres. D'ailleurs, il domine et il est béni. Bon, ça c'est parce que ça existe aussi, le mythe de l'androgyne et tout ça, ça circule entre la Grèce. Ben non, on n'est pas devant un être androgyne, on est devant deux êtres. Voilà, et deux êtres, c'est extrêmement important, dans lequel il n'y a pas de hiérarchie. Voilà, ce texte n'établit aucune hiérarchie, nous présente le masculin et le féminin sur un pied d'égalité, sans aucune préséance de l'un sur l'autre. Alors, quand on arrive là, normalement, le lecteur est suspendu à la suite. Parce que la question, c'est, ben, et ça va marcher comment, ce beau dispositif ? Parce que avec le Shabbat, Dieu s'absente. Alors, le dessin n'est pas parfait parce que le Adam, c'est un monsieur, là. Ça se voit que c'est un monsieur. Mais Adam, c'est un peu plus complexe que ça, j'espère vous l'avoir montré. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, Dieu a créé l'homme comme la mer a fait les continents en se retirant. Et qu'est-ce qui va se passer ? Autrement dit, la question, c'est la question, bien évidemment, de la liberté. Voilà. Dieu met un dispositif dans lequel il y a une loi implicite à travers le don d'une nourriture uniquement végétale, à travers l'exemple du Shabbat que lui-même pratique, et puis débrouille-toi avec ça. Eh bien, le deuxième et le troisième récit, chapitre de la Genèse, vont justement nous emmener dans la suite, parce qu'en fait, il y a une crise. On voit bien que le dispositif qui est en place, ben, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Bon, nous savons que ça n'a pas très bien marché. Mais comment, pourquoi, c'est ça que va nous raconter le deuxième récit. Donc, laissons-le raisonner. Ce deuxième récit, Je ne sais plus où on en est dans les lecteurs, mais on va continuer pareil, voilà. Alors, je vous avertis tout de suite peut-être de quelque chose. C'est que vous n'allez pas entendre Adam, parce que la traduction que j'ai choisie continue de traduire Adam par humain. Et vous n'allez pas non plus entendre terre, parce que c'est un autre mot que dans le premier chapitre. C'est le mot Adama qui désigne la terre cultivable, la terre arable, et d'où vient d'ailleurs humain. Adam, Adama, et donc pour qu'on comprenne bien le jeu de mots en hébreu, André Wénin a traduit Adam par humain et Adama par humus. Voilà. Donc, à part ça, et puis par rapport à la manière de nommer Dieu, on change de manière de nommer Dieu. Dans le texte biblique, il y a deux mots, sauf dans la manière dont va parler le serpent, qui ne dira que Elohim, mais dans tout le reste du texte, il y a deux mots, le tétragramme, imprononçable. Nous, on traduit Yahvé, dans pas mal de nos Bibles, il y a traduit Yahvé, mais bon, on ne sait pas comment ça se prononce en réalité, et on ne le prononce pas. Et puis, Elohim. Et donc, quand les Juifs voient le tétragramme, ils disent en général Adonai. Donc, c'est ça qui est écrit, Adonai Elohim, ça veut dire le Seigneur Dieu, Yahvé Dieu. Bon, on est reparti avec la... Ah, une chose importante, parce qu'on va se passer des fleuves. Il faudra sauter dans le dernier paragraphe les versets 10, 11, 12, 13, 14. Ça va? Vous avez repéré quand on en sera là? Et on reprendra « Et Adonai Elohim prit l'humain » au verset 15. On va laisser les fleuves du paradis, ça nous est égal.
Ceux-ci sont les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent créés, au jour où Adonai Elohim fit terre et cieux. Or, tout arbuste des champs n'était pas encore dans la terre, et toute herbe des champs n'avait pas encore germé, car Adonai Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'humains, il n'y en avait pas pour travailler l'humus. Mais un flot montait de la terre et abreuvait toute la face de l'humus. Et Adonai Elohim modela l'humain, poussière hors de l'humus, et il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. Et Adonai Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'humain qu'il avait modelé. Et Adonai Elohim germait hors de l'humus tout arbre convoité pour la vue et bien pour le manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre du connaître bien et mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour abreuver.
Alors, on peut sauter, tu prends au verset 15. Tu y gagnes, hein.
Et le déposa dans le jardin d'Éden pour la travailler et la garder. Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant de tous les arbres du jardin, tu mangeras, Et de l'arbre de connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adonai Elohim dit, ce n'est pas bien que l'humain soit à sa solitude. Je ferai pour lui un secours comme son vis-à-vis. Et Adonai Elohim modela hors de l'humain tous les vivants des champs, tous les volatiles des cieux, et il les fit venir vers lui. Voir ce qui leur criera. Et tout ce qui leur criera l'humain à un être vivant, c'est son nom. Et l'humain cria des noms pour tout le bétail, pour les volatiles des cieux, et pour tous les vivants des champs. Mais pour humain, il ne trouva pas de secours comme son vivant.
Et Adonai Elohim fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit. Et il prit un de ses côtés et ferma la chair à sa place. Et Adonai Elohim construisit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme, et il la fit venir vers l'humain. Et l'humain se dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os, et chair de ma chair. À celle-ci, il sera crié femme, car d'homme a été prise celle-ci. Sur quoi homme abandonnera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront chair et os. Et le deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils ne se faisaient pas mal.
Or le serpent était astucieux, nu, plus
tous les vivants des champs qu'avait fait Adonai Elohim. Et il dit à la femme, « Vraiment, oui. » Elohim a dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas de peur que vous mourriez. » Et le serpent dit à la femme, « Mourir, vous ne mourrez pas. » Oui, Elohim est connaissant qu'en jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim connaissant bien et mal. Et la femme vit que bien était l'arbre pour manger et que désir était celui-là pour les yeux et convoitait l'arbre pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit, en mangea et donna aussi à son homme avec elle et il mangea. Et s'ouvrirent les yeux de deux et ils connurent qu'eux étaient nus. Et ils cousirent du feuillage de figuier, et ils firent pour eux des palmiers. Et ils entendirent la voix d'Adonai Elohim, allant et venant dans le jardin, au vent du jour. Et il se cacha, l'humain et sa femme, loin de la face d'Adonai Elohim, au milieu des arbres du jardin. Et Adonai Elohim cria vers l'humain et lui dit, « Où es-tu ? » Et il dit, « C'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin, et j'ai eu peur. » Parce que je suis né. Et je me suis caché. Et il dit, quel vis-à-vis t'a raconté que tu es nu? De l'arbre que je t'ai ordonné de n'en pas manger, as-tu mangé? Et l'humain dit, la femme que tu as donnée avec moi, celle-là m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et Adonai Elohim dit à la femme, qu'as-tu fait là? Et la femme dit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé.
Et Adonai Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit es-tu plus que tout le bétail et plus que tous les vivants des champs. Sur ton ventre tu iras et poussière mangeras tous les jours de ta vie. Et c'est une inimitié que je mettrai entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Lui te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. À la femme il dit, multiplié, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Avec peine, tu enfanteras tes fils. Et vers ton homme, ton avidité, mais lui, dominera sur toi. Et à l'humain, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre et que je t'avais ordonné en disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est l'humus à cause de toi. En peine, tu mangeras tous les jours de ta vie. Bronze et chardon, il fera germer pour toi, et tu mangeras l'herbe des champs. En la sueur de tes narines, tu mangeras du pain jusqu'à ce que retourne à l'humus, car de lui tu fus pris, car poussière tu es, et à poussière retournera.
Et l'humain cria le nom de sa femme, Kawa, car elle fut mère de tout vivant. Et Adonai Elohim fit pour l'humain et sa femme des tuniques de peau, et il les habilla. Et Adonai Elohim se dit, voici l'humain était comme un de nous pour connaître bien et mal. Et maintenant, de peur qu'il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il mange, il pourra vivre à jamais. Et Adonai Elohim le renvoya du jardin d'Éden pour travailler l'humus d'où il avait été pris. Et il chassa l'humain, et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Merci. Alors voilà, à la fin de ce chapitre 3, patatrac. Le monde du texte ressemble étrangement au nôtre et le lecteur que nous sommes reconnaît cette fois toute la dimension peineuse de l'existence humaine, l'opposition avec le monde animal, particulièrement la dangereuseté sournoise des serpents, l'accouchement, dans la souffrance. Quel mystère au moment où la femme met au monde quelque chose. Y a-t-il plus extraordinaire que ce soit dans la souffrance, que ce soit au péril de sa vie, encore dans de nombreuses régions du monde. Et puis la dure réalité d'une terre qui ne donne pas toujours son produit, la famine, la sécheresse. Et puis toute cette cascade d'accusations mutuelles, la femme accusant l'homme, accusant la femme accusant le serpent. Nous sommes vraiment au milieu de ce que nous connaissons. Même si, en regardant de près, il y a aussi au milieu de ces souffrances beaucoup de tendresse et d'espoir. J'aime beaucoup la manière dont, en sortant de cette catastrophe, l'homme nomme Ève, nomme sa femme Hawa, Ève, la vivante. Et aussi le détail, alors qu'ils se sont vêtus de feuilles de figuier, Dieu les équipe, voilà. Il leur fait des tuniques de peau, il les coud lui-même, il les revêt, parce qu'il va falloir quitter le jardin d'Éden et il faut être correctement habillé. Donc, dans ce monde-là, où la souffrance existe, où tout est mélangé, notre monde, notre auteur a réfléchi. Voilà. Que s'est-il passé? Pourquoi le monde est-il si dur à vivre alors qu'il est si beau? On est dans le prolongement de Genèse 1. Comment se fait-il que l'humain accuse, souffre, meurt alors qu'il est créé à l'image de Dieu? Voilà le problème. Question philosophique s'il en est, et auquel la Bible répond dans son langage avec ce qu'on appelle en termes de genre littéraire un récit étiologique. L'étiologie d'une maladie, c'est sa cause. Là, nous avons un récit qui essaye de trouver la cause de cette dimension peineuse, déchirante de l'existence humaine. Alors, c'est des chapitres qui ont fait couler énormément d'encre. Compte tenu de notre sujet et de l'heure qu'il est, je vous propose de nous concentrer seulement sur trois passages. La création d'Ève, et puis le récit de la chute, ce qui nous obligera à revenir sur ce que Dieu a dit et n'a pas dit au chapitre 2 à Adam. Parce qu'il faut regarder, je crois, un peu précisément ces trois petites séries de versets, parce qu'il faut reconnaître que là, on est au cœur du problème par rapport à la responsabilité que porte la Bible dans l'élaboration des stéréotypes qui ont marqué les femmes depuis les premiers siècles. Ça a commencé très très tôt. Voilà, créé pour tenir compagnie à l'homme, n'est-ce pas? Créé comme une aide pour l'homme. Et puis créé en second, voilà, à partir de l'homme. Voilà. Et puis la première à se laisser séduire, la cause du péché, et tutti quanti. Tout y est pour mettre la femme en second et même dans une place secondaire et la tenir pour responsable de l'entrée du mal dans le monde. Tout y est dans certaines interprétations, à mon avis, pas dans le texte. Donc, on va regarder d'un petit peu près. Alors, commençons par remarquer, mais ça je vais aller vite, qu'on a un récit vraiment qui se suit. Même si on vous raconte une autre fois la création, le récit est tuilé. La fin du premier récit, ceux-ci sont les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent créés, est à la fois la fin du premier récit, en un commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le début du deuxième récit, en un jour où il y avait Dieu fit le ciel et la terre et les cieux. Bon. Passons et poursuivons. Alors, la création d'Ève. D'abord, ah oui, ça veut dire quand même qu'on est dans le prolongement de tout ce qu'on a découvert avec le premier chapitre. C'est-à-dire l'égalité entre le masculin et le féminin dans l'humain. Et puis, cette question de limite, voilà, doucement indiquée par Dieu. Et c'est tout. Que j'appelle une loi implicite. Et on a déjà entendu parler du rampant. Hein. Alors, l'intention du créateur, il n'est pas bon. Alors ça, on a entendu Kitov, 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 Méod, c'est très bon. Et puis là, Lotov. Évidemment, le récit veut nous montrer que Dieu réfléchit, qu'on atteint quelque chose d'extrêmement important pour que la création soit tov, soit complète. Et le problème, c'est que si l'humain masculin et féminin est tout à fait un être parlant, hein, Adam va nommer les animaux. Cette relation à laquelle il est appelé entre masculin et féminin, elle ne s'est pas encore mise en œuvre. Il n'y a pas eu de tu dans le premier chapitre. Donc, la création de la femme, c'est une aide qui lui soit accordée ou qui lui soit assortie. L'hébreu, littéralement, c'est kenegdo, c'est-à-dire en face, voilà, en vis-à-vis, contre. Donc déjà, dans le kenegdo, le que c'est toujours le fameux qui, hein, et negdo c'est, voilà, c'est en face. Vous êtes en face d'une colline, vous êtes à côté d'une ville, voilà. Donc le vis-à-vis. Le plus extraordinaire, c'est de comprendre ce mot hébreu de, qui est traduit par ed, et qui est un mot très rare, ézer. Il y a peut-être 50 usages maximum. Et dans ces 50 usages, c'est facile avec un logiciel de Bible d'aller les chercher et de les parcourir, vous vous apercevez de quoi ? Que c'est une aide vitale, par exemple, lors d'une bataille, bon, l'aide qui vient, vraiment une question de vie ou de mort, cette histoire d'aide, de ézer. Et surtout que dans un nombre très important de cas, d'occurrences, le ézer, c'est Dieu qui est le secours d'Israël. Par exemple, dans le psaume 115, Israël met ta foi dans le Seigneur, après justement toute la dégringolade des idoles, elles ont des yeux, ne voient pas, des oreilles, n'entendent pas, etc. Semblables à eux sont ce qu'ils font. Israël met ta foi dans le Seigneur, le secours, le bouclier, c'est lui. Et bien, secours, c'est Ézer. Et Ézer, c'est Dieu. Donc, ce Ézer en vis-à-vis, vous voyez que c'est une position extrêmement forte de la femme dans le dessein de Dieu et son projet de ne pas laisser l'humain à sa solitude. Et comme dit la tradition juive, par rapport à cette aide en vis-à-vis de lui, s'il le mérite, c'est une aide. Sinon, elle est contre lui. J'aime assez. La femme sans sœur de l'homme, c'est assez rare. Bon. Alors, à noter au passage que dans cette intention divine, il n'est nullement question de la procréation et de la reproduction. Ça, c'est déjà joué au premier chapitre avec la multiplication et le remplissez la terre. Donc, cette aide apportée par la femme ne saurait être cantonnée à la question de la reproduction. Ça, c'est très important. On est dans autre chose qui va être de l'ordre de la relation. Alors après, comment ça se réalise ? Là encore, on a une surprise avec le mot utilisé en hébreu, la côte d'Adam, la fameuse côte d'Adam. Ça ne veut pas dire côte. Le mot, c'est là. Ça veut dire côte nulle part dans tout l'Ancien Testament. Ça veut dire côté. Et là aussi, il n'y a pas beaucoup d'occurrences, je ne sais pas, peut-être 30 ou 50, j'ai oublié. Mais, et mon logiciel de Bible ne m'obéit plus, parce qu'autrement, j'aurais vérifié pour vous ce soir, mais j'ai des problèmes avec le logiciel. Donc, ça veut dire côté, et là aussi, quand on regarde les occurrences, alors, s'il vous plaît, le mot côté, c'est par exemple les deux côtés de la tente de la rencontre dans le désert, qui est le temple ambulant qui se promène avec le peuple dans le désert, qui est le lieu de la présence de Dieu. Et puis, on remet ça quand Salomon construit le temple. Les deux côtés du temple, c'est encore ce mot de Tsela. Donc, ce n'est pas n'importe quel côté, voilà. Et il n'y a pas de plus immense manière dans le vocabulaire biblique de désigner l'union entre l'homme et la femme que d'aller chercher du vocabulaire qui décrit le lieu même de la présence de Dieu seul et unique dans le temple de Jérusalem, sur toute la planète. Puisque vous savez que dans le judaïsme, quand il y avait un temple, il n'y en avait qu'un seul. Bon, donc on est tous dans tout sauf de la dévalorisation de la femme, dans tout cela, et reste le résultat. Bon, là, ça va se gâter un tout petit peu, parce que la question, c'est qu'est-ce que l'homme va faire? Alors là, je m'appuie pas mal sur la lecture que fait André Wénin. Il est assez psychanalytique, André Wénin, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'appliquer cette grille de lecture, parce qu'elle est très existentielle. Et il remarque quelque chose d'important, c'est que, en fait, l'homme, eh bien, c'est à partir de son côté qu'on a créé la femme. Donc, là, il y a un manque chez lui. Et comment va-t-il réagir à ce manque? Eh bien, assez mal. Parce que j'ai fait le test avec les étudiants, essayé une seconde, là, toutes les femmes de cette assemblée. Imaginez-vous, vous venez d'être créée, vous êtes Ève, vous n'avez pas encore votre nom, mais bon, Dieu vous amène à votre homme, et le voilà qui dit, « Ah, celle-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. À celle-ci sera appelée femme, Isha, car d'homme, Ish, elle a été prise. » C'est la première fois qu'on voit arriver les mots Ish et Isha, homme et femme. Cette fois-ci, on y est. On est à la fin du chapitre 2. Quel effet ça vous a fait d'arriver devant Adam et de l'entendre dire « Ah, cette fois-ci, celle-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Habituellement, en tout cas, mes étudiantes, elles n'aiment pas beaucoup. Voilà. Parce que, enfin, ils ne pourraient pas me parler, non? Ils ne pourraient pas s'adresser à moi. Ils ne pourraient pas me dire « Mais tu es belle, ma bien-aimée. » Bon, ça, il faudra attendre le Cantique des Cantiques, vous voyez. Mais c'est important, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas lire un texte tout seul. Et ça nous ramène à quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois dans le texte, c'est que la création, c'est en genèse, c'est en programme. Il y a quelque chose qui doit s'accomplir avec la participation active de l'humain. Et quand il rate son coup, eh ben, il rate son coup. Voilà. Et Dieu n'est pas là pour lui dire « Attends, on joue la scène, c'est pas ça qu'il fallait dire. » Non. Alors, là, il y a vraiment un problème. Parce que on est quand même dans des textes d'origine, on est dans la Bible. Bon, soit on se dit, ok, comme dit Catherine Chalier, elle a raison d'ailleurs, l'exil de la femme commence très tôt dans la Genèse. Déjà, entre Adam et Ève. Comme nous sommes loin de Genèse 1. Mais à mon avis, selon le degré d'autorité qu'on donne au texte, selon la radicalité qu'on accorde à cette césure du péché, de l'avant et l'après, le péché n'est pas encore là, mais on peut considérer que la Bible, l'imperfection est déjà là, et la Bible est machiste dès le début, dès l'origine. Parce que la différence fait peur et que la rencontre est imparfaite et qu'Adam réduit sa femme à lui, os de mes os, chair de ma chair. Et elle, grosse maligne si on veut se dire, eh ben, alors qu'elle a été créée en face à face, hein, en vis-à-vis, en contre, on peut aider quelqu'un en étant contre lui aussi. C'est la boucle. Bon. Mais quand on fait ça, il faut regarder le texte de près et voir qu'on est en contradiction avec ce qui vient juste après. Parce que ce qui vient juste après, c'est l'homme. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront chair unique. Alors, ce s'attacher, c'est un mot aussi très très fort en hébreu. C'est le mot qui désigne dans la mystique juive l'union à Dieu. Voilà, la Kabbale et tout. Donc, c'est un mot extrêmement fort. C'est un mot d'intimité. Voilà. Donc là, on retrouve la question de l'égalité. Et puis surtout, si on fait ça, on est en train de projeter les relations de domination que nous avons vues s'établir après la chute, de les projeter sur avant. Et à mon avis, il y a un problème. C'est pas parce que cet état d'innocence nous est complètement étranger, on ne peut même plus l'imaginer, qu'il faut, dès avant la chute, projeter un raisonnement qui est le nôtre aujourd'hui, vous voyez, qui est justifié. Hein, la tradition juive s'interroge aussi là-dessus. Mais, bon, à mon avis, il y a une lecture meilleure, même si elle est plus difficile, d'ailleurs, c'est souvent les lectures les plus difficiles qui sont les meilleures, qui est justement de considérer que l'exercice d'une authentique liberté, ben, le résultat n'est pas atteint du premier coup. Voilà. C'est pas terrible, la première déclaration d'Adam à Ève. On est d'accord. Voilà. Il faut lire la suite. C'est pour ça que la lecture canonique est importante. Mais on n'a pas le temps de se lancer là-dedans. Donc, juste le Cantique des Cantiques, retenez ça dans un coin de votre mémoire et allez lire si vous voulez. Il faut une demi-heure pour lire le Cantique des Cantiques et c'est magnifique. Donc, on peut conclure sur la création de la femme dans ce deuxième récit, en disant qu'on retrouve, décliné autrement que dans le chapitre premier, tous les éléments qui instaurent entre elle et son homme, son ish, entre Isha et Ish, une égalité de statut et de mission. Voilà. Tout au plus, doit-on remarquer que le résultat n'est pas parfait et qu'Adam a des progrès à faire en communication amoureuse. Alors maintenant, il faut qu'on aille voir ce qui va se passer avec le chapitre 3, avec encore une habile articulation de l'un à l'autre, parce que le chapitre 2 se termine avec « Tous deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils ne se faisaient pas honte ». Et figurez-vous que « nu » en hébreu c'est « arum »,« arumim » au pluriel, ils étaient nus, et le serpent aussi, il était nu. Arum. Et comme l'hébreu est concret de chez concret, pour dire rusé, il dit nu. Pourquoi ? Ben parce que si tu es nu, va falloir te débrouiller pour survivre. Donc tu as intérêt à être futé. Et c'est comme ça que il n'y a pas de vocabulaire psychologique dans la Bible, pratiquement pas. Pour dire que Dieu est en colère, littéralement, le feu lui sort des narines. Voilà. Et pour dire que Dieu est lent à la colère, ça c'est le texte hébreu, pour dire que Dieu est lent à la colère, alors le texte hébreu, littéralement, c'est « Dieu est long de narines ». Comme ça, ça se refroidit avant de sortir, vous voyez. Donc, ce nu, en fait, on retrouve le nerf du texte, c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'homme avec l'humain, avec le manque, voilà. Avec la fragilité, avec la limite, qu'est-ce qui va se passer? Apparemment, ce manque-là, cette nudité-là, elle est insupportable au serpent, qui est déjà... Le serpent n'est pas dans le jardin. Le serpent est un animal des champs. Et ça, ça veut dire quelque chose d'important symboliquement. Dieu a planté un jardin, ça c'est l'harmonie du premier chapitre. Il a établi l'homme pour le garder et le cultiver. C'est le début du chapitre 2. Et ce serpent qui vient des champs, eh ben, il est déjà, lui, tout entier dans ce monde où il faut ruser pour vivre. Ce monde de violence, cette jungle, on dirait, même si la Bible parle de champ. Alors, il va être extrêmement futé, de chez extrêmement futé, et pour comprendre comment il fait tomber Ève, il faut d'abord comprendre ce que Dieu a dit. Donc, Donc face au manque, hein, on va jouer la partie comment. Voilà. Nos limites, eh ben oui, on est créé avec des limites, le monde est créé avec des limites, le temps a des limites, ou bien nos limites. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? D'abord, c'est un ordre. Je reprends le texte. Où est-ce qu'on est? Au chapitre 2. Voilà, en haut de la colonne, là. Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant « De tous les arbres du jardin, manger, tu mangeras. c'est important de voir que c'est le don qui est premier. Après, tous les arbres de jardin, manger, tu mangeras. Souvent dans les Bibles, c'est traduit « tu peux manger ». Bon, ben, le verbe « pouvoir » n'est pas dans l'hébreu. On a un double infinitif. Là, c'est littéralement « manger, tu mangeras ». Ça intensifie le sens du verbe. Il y a la traduction de la Bible des communautés. J'avais un étudiant qui avait ce texte-là l'autre jour en main. C'était magnifique. C'était traduit « mange tant que tu voudras ». Je trouvais ça superbe. Bon. Ou alors, il y a une nuance modale. Soit tu peux manger, soit, ça c'est la traduction de la Bible de Jérusalem, catholique, soit tu dois manger, ça c'est la lecture juive. Voilà. Mais en tout cas, ce qui n'est pas possible, et puis c'est la même chose, tu n'en mangeras pas, car de mort tu mourras, c'est la même chose, encore un double infinitif. Mais ce qu'on ne peut pas faire, autrement on est en plein en train d'interpréter le texte, c'est de rajouter pouvoir la première fois, par exemple de dire, et puis de prendre devoir la deuxième fois. De dire de tous les arbres du jardin, tu peux manger, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, sinon tu devras mourir. Là, il y a un problème. Donc, prenons le sens littéral, un don, manger tant que tu veux, le plaisir, la jouissance des arbres du jardin, y compris l'arbre de la vie qui est là parmi tous les autres. Voilà. Mais de l'arbre du connaître bien et mal. Alors, tous les mots sont compliqués à traduire. Le verbe connaître, c'est aussi un mot qui correspond à une connaissance très intime, très expérientielle. Par exemple, c'est le même mot qui est utilisé pour dire que Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta. Voilà. Donc c'est un mot qui désigne une connaissance par l'expérience, une connaissance intérieure, intime. Et puis, le bien et le mal, ça aussi c'est difficile à traduire parce que c'est à la fois un substantif et un adverbe en hébreu. Donc, soit c'est le bien et le mal, toute chose dont l'humain d'avant la faute a la notion, hein, il va être capable de nommer les animaux, donc il a la notion, la perception d'une limite, une connaissance. Bon, mais connaître le bien et le mal, c'est encore une fois plutôt, à mon avis, de l'ordre de l'expérience, de ce qui va se dérouler dans l'histoire. On pourrait traduire le bonheur et le malheur, voilà, comme dit Deutéronome 30, des chemins de vie et des chemins de mort. Choisis donc la vie. Et le fruit de l'arbre de la connaissance concerne cette capacité humaine à choisir bien ou mal, voilà, à discerner, à choisir, pour son bonheur ou pour son malheur. Parce qu'avant d'être bien ou mal, il y a des comportements qui produisent du bien et il y a des comportements qui produisent du mal, qui font mal. Alors, c'est pour ça que j'aime bien la traduction d'André Wénin. Voilà, il a essayé connaître bien et mal. En tout cas, ça indique encore une fois une limite. C'est-à-dire quelque chose qu'il n'appartient pas à l'humain de manipuler. Quelque chose qui lui vient de l'extérieur. C'est la verticalité de la loi. Je mets un L majuscule à la loi parce que la Bible met un L majuscule à la loi, s'il y avait des majuscules en hébreu. Parce qu'on n'est pas en train de s'occuper du contenu de telle ou telle loi. On est en train de parler de l'existence même d'une loi qui fait la société, la nécessité, l'existence humaine elle-même. Et c'est aussi par ce dispositif très concret, très pratique, le lieu où va s'exercer la liberté dans l'exercice du libre arbitre. Autrement, l'homme est un béat, voilà, mais et après, qu'est-ce qui se passe? Seulement, ne pas oublier que cette loi commence par un don. Si vous lisez le Décalogue, c'est la même chose. Première parole du Décalogue, c'est pas « tu n'auras qu'un seul Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », c'est « je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Voilà. Ça, c'était gratis, je t'ai rien demandé. Et 3 mois plus tard, bon, eh ben, si tu veux, on continue de marcher ensemble. Donc, on oublie toujours le don, et c'est exactement ce que va faire le serpent. Parce que ce que dit le serpent, vas-y Alexis, c'est qu'il inverse et qu'il dit, alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vas-y, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Dieu a donné tous sauf un, donc il n'a pas tout donné. Sauf que, comme ça, le don a disparu. Il ne reste que l'interdit. Et pourquoi on voit que c'est rusé, c'est que Ève tombe dans le piège illico? Parce que qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond... La femme dit au serpent, quand même, elle défend Dieu, hein, « Du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. » Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, on n'en sait rien du tout si c'est celui-là qui est au milieu du jardin. Au début, si vous êtes attentif, c'est plutôt l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Mais pour elle, ça y est, cet arbre-là commence déjà à atteindre le milieu. Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous mouriez. Elle rajoute deux choses. Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas toucher. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de peur? Vous voyez? Donc, c'est là que la manière dont le serpent sinue, c'est d'une subtilité. Alors, une fois qu'elle en est là, elle peut y aller. L'affaire est dans le sac. Et tout de suite derrière, le serpent dit à la femme, « Mourir, vous ne mourrez pas !» Oui, Elohim, connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des Elohim, connaissant bien et mal. Cette fois-ci, il peut arriver à dire exactement le contraire de ce que Dieu a dit, c'est-à-dire vous ne mourrez pas. Et il arrive à présenter Dieu comme un être malfaisant qui a mis en place tout un dispositif pour garder la connaissance pour lui, alors que lui, le serpent, il est au courant de tout ça et il va expliquer à la femme comment est-ce qu'elle et son homme peuvent devenir comme des Elohim. Et ça a été juste susurré.
Peut-être que si c'est possible de finir dans 10-15 minutes.
J'ai fini dans quelques instants parce que nous sommes arrivés et qu'après, il faut que vous ayez le temps aussi de discuter. Qu'on puisse parler un tout petit peu de tout ça. Donc, vous voyez la ruse. Alors, après, on peut se demander les degrés de responsabilité dans cette histoire. Parce que c'est quand même ça qu'on reproche à la femme. Bon. Alors, mets-nous le dernier, s'il te plaît. Voilà. Dans les sentences finales, voilà, où Dieu rend à chacun ce qui lui est dû, vous avez encore un texte extrêmement bien construit, avec ce qu'on appelle un chiasme, c'est-à-dire que en haut et en bas, il y a des choses qui se répondent. Pour le serpent, comme pour l'humain, la dent, là c'est l'homme, hein, vous avez quelque chose de beaucoup plus construit. Parce que tu, et puis vous avez une malédiction, alors attention avec les malédictions de la Bible, hein, c'est pas souhaiter le malheur, c'est constater le malheur. Malheureux es-tu, le serpent. Malheureux es-tu, toi le serpent, et pour l'homme, malheureux, maudit et l'humus, la terre, à cause de toi. Et vous avez à chaque fois une peine qui touche à la fois sur des fonctions vitales, la locomotion, la nourriture pour le serpent, encore la nourriture et le mode de travail pour l'homme, et puis les fonctions vitales et les relations, le serpent opposé à la femme, entre parenthèses, c'est la descendance de la femme qui va gagner, ça retrouvera ça dans l'Apocalypse. Et puis, l'homme opposé à cette terre qui va lui résister dans son travail. Pour la femme, alors les biblistes ont joué à ça, je n'ai pas inventé le tableau, hein, c'est bon, hein, j'ai voulu rajouter sur le transparent. On compte les versets, on compte les mots, on regarde au poids qui en a son lot. Vous voyez. Donc, pour la femme, c'est beaucoup plus light. Il n'y a pas de malédiction. D'ailleurs,
D'ailleurs, ni l'homme ni la femme ne sont dits dans cette histoire. L'histoire va continuer avec l'image de Dieu. Et la femme est touchée aussi, elle aussi, dans ses fonctions vitales, au moment où elle donne la vie, et dans les relations avec l'établissement d'une avidité pour son homme et d'une domination de l'homme sur elle. Donc là, on a atterri, si j'ose dire, dans notre monde tel qu'il est aujourd'hui. L'auteur, un sage, a résolu sa question de nous expliquer pourquoi le monde est ainsi. Et vous voyez qu'on est parti d'un univers complètement bon de la part de Dieu, d'un dispositif où l'homme est appelé à exercer sa liberté, à entrer en relation, et d'un dispositif qui va devoir se déployer dans le temps, et on n'est qu'au troisième chapitre de la Bible, et il y aura 75 livres derrière, pour arriver à résoudre la fracture qui est en train de se passer là, parce que l'homme exerce sa liberté à l'envers, à l'encontre de l'image de Dieu déposée en lui. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et en tout cas, les responsabilités sont largement partagées. Tu mets-nous le dernier, s'il te plaît. Voilà. Je me suis demandé, ça c'est si le fait qu'il y en ait plus pour l'homme que pour la femme, nombre de mots et de versets, voilà, une indication. En tout cas, on ne peut pas traiter ces textes de misogyne, ça je crois que c'est absolument impossible. C'est le texte biblique lui-même qui est féministe. Bon, je m'arrête là. Il nous reste une vingtaine de minutes. J'ai envie de vous inviter à respirer un peu, à vous tourner vers votre voisin et à vous échanger un tout petit peu, là, quelques minutes, deux, trois minutes. Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui scintille? Qu'est-ce qui surgit? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a... Bon, puis après, on laissera vous discuter comme ça. Ça va?
Merci beaucoup, Sœur Claire.
Non, ben, c'est pas fini, c'est pas fini.